Il était difficile et dangereux de se mouvoir de nuit dans ce pays accidenté. Mais lentement et péniblement, les hobbits cheminèrent heure après heure en direction du nord, sur la lisière orientale de la vallée pierreuse. Quand la lueur grise reparut sur les hauteurs de l'ouest, longtemps après que le jour se fût levé dans les terres au-delà, ils se remirent à couvert et dormirent un peu, à tour de rôle. Durant ces périodes d'éveil, Sam était préoccupé par la question des vivres. Et quand Frodo se réveilla enfin, proposant de manger avant d'entreprendre un nouvel effort, Sam lui posa la question qui l'inquiétait le plus.
« Vous m'excuserez, monsieur Frodo, » dit-il, « mais avez-vous idée du chemin qu'il nous reste à faire ?»«
Non, aucune idée précise, Sam, » répondit Frodo. « À Fendeval, avant le départ, on m'a montré une carte du Mordor dressée avant que l'ennemi ne fût revenu ici, mais je n'en ai conservé qu'un vague souvenir. Ce que je me rappelle avant tout, c'est qu'il y avait une région au nord où les chaînes de l'ouest et du nord projettent des éperons qui se rencontrent presque. Il doit y avoir au moins 20 lieues jusque-là en partant du pont près de la tour. Ce pourrait être un bon endroit pour traverser. Mais naturellement, cela nous amènerait encore plus loin de la montagne que nous ne l'étions pour commencer, à 60 000 de distance, selon mes estimations. Nous devons être à 12 lieues au nord du pont à présent. Même si tout va bien, je ne pourrai guère atteindre la montagne en moins d'une semaine. Je crains, Sam, que le fardeau ne devienne très lourd. J'irai donc encore plus lentement à mesure que nous approcherons. »
Sam soupira.
« C'est bien ce que je craignais, » dit-il. « Eh bien, sans parler du manque d'eau, il faudra manger moins, monsieur Frodo, ou bien aller un peu plus vite, du moins tant qu'on traînera dans cette vallée. Encore une bouchée et tous nos vivres seront épuisés, sauf le pain de route des elfes. »
« Je vais essayer d'accélérer le pas, Sam, »
dit Frodo avec une profonde inspiration.
« Dans ce cas, allons, en route pour une autre marche. »
Les ténèbres n'étaient pas encore tout à fait revenues. Ils repartirent d'un pas lourd et chancelant jusque dans la nuit. Les heures passèrent, pénibles et lasses, entrecoupées de brèves haltes. À la première lueur grise sous les lisières de la voûte d'ombre, ils se tapirent à nouveau dans l'obscurité d'un creux, sous un rocher en surplomb. La lumière crut lentement, et elle se fit plus claire que jamais. Un fort vent soufflait de l'ouest, chassant les vapeurs du Mordor des hauts airs. Avant peu, les hobbits purent discerner la forme des terres à quelques milles autour. À mesure que le pays s'élevait, la gorge entre les montagnes et la Morgaille s'était progressivement comblée, et la chaîne intérieure n'était plus qu'un replat sous les flancs abrupts de l'Efeldouath. Mais à l'est, elle plongeait toujours aussi brusquement vers le Gorgoloth. Au nord, la vallée asséchée se terminait par un amoncellement de rochers en escalier, car de la chaîne principale se détachait un haut contrefort nu, dressé comme un mur en direction de l'est. À sa rencontre s'avançait, de la chaîne septentrionale des Ered Lithwi, aux cimes brumeuses et grises, un grand bras saillant, et entre ces deux éperons s'ouvrait une étroite brèche, Karak Angren, la gueule de fer, au-delà de laquelle s'étendait la profonde vallée de l'Udun. Dans cette vallée derrière la Morannon se trouvaient les tunnels et les profondes armureries creusées par les serviteurs du Mordor pour défendre la porte noire de leur pays. Et leur seigneur, à présent, se hâtait d'y rassembler de grandes forces pour contrer l'assaut des capitaines de l'Ouest. Sur les éperons avancés se dressaient des tours et des forts éclairés par des feux de garde. Et sur toute la largeur de la brèche, un mur de terre avait été élevé, précédé d'une profonde tranchée franchie par un unique pont. À quelques milles au nord, juché dans l'angle entre l'éperon ouest et la chaîne principale, se trouvait l'ancien château de Durtang, devenue l'une des nombreuses forteresses orques concentrées autour de la vallée de l'Udun. Une route sinueuse, déjà visible dans la lumière croissante, en descendait, et à seulement 1 ou 2 milles de l'endroit où se tenaient les hobbits, elle tournait vers l'est et suivait une corniche taillée au flanc de l'éperon, descendant alors dans la plaine et vers la gueule de fer. Devant tel paysage, il sembla aux hobbits que tout leur voyage vers le nord avait été vain. La plaine sur leur droite était sombre et enfumée, et ils n'y voyaient pas le moindre camp ni déplacement de troupes. mais toute la région était sous la vigilance des forts de Calac-Angren.
Nous voici dans une impasse, Sam, dit Frodo. Si nous continuons, nous finirons seulement par arriver à cette tour orque. Mais la seule route pour nous est celle qui en descend, à moins de revenir sur nos pas. Impossible de grimper à l'ouest, ni de descendre à l'est.
Alors, il faut prendre la route, monsieur Frodo. Il faut la prendre et espérer que notre chance tiendra, à supposer que la chance puisse nous suivre au Mordor. Autant nous livrer tout de suite à l'ennemi, plutôt que de continuer à flâner dans le coin ou essayer de revenir sur nos pas. Nous n'aurons bientôt plus de vivres. Il faut foncer.
D'accord, Sam, dit Frodo. Conduis-moi, tant qu'il te reste un peu d'espoir. Je n'en ai plus. Mais je ne peux pas foncer, Sam. Je vais juste me trimballer derrière toi.
Avant de vous trimballer plus loin, il vous faut du repos et de quoi manger, monsieur Frodo. Venez prendre ce que vous pourrez des deux.
Il lui donna de l'eau et une autre gaufrette de pain de route et lui offrit sa cape repliée en guise d'oreiller. Frodo était trop las pour discuter, et Sam ne lui fit pas remarquer qu'il avait bu tout ce qu'il leur restait d'eau et mangé la portion de Sam en plus de la sienne. Quand il se fut endormi, Sam se pencha sur lui, écouta sa respiration et scruta son visage. Celui-ci était ridé et amaigri. Pourtant, dans le sommeil, il respirait le contentement et la quiétude d'esprit.
« Eh bien, faut ce qu'il faut, maître, » murmura Sam pour lui-même. « Je dois vous laisser un peu et m'en remettre à la chance. Il nous faut de l'eau ou on n'ira pas plus loin. »
Sam sortit à pas de loup et, volant de pierre en pierre, plus furtif qu'un hobbit, il descendit jusqu'au lit asséché et le remonta sur une courte distance au nord, jusqu'au rocher en escalier où, longtemps auparavant, une source avait dû jaillir en une petite chute d'eau. Tout était sec et silencieux à présent. Mais Sam, refusant de baisser les bras, se pencha pour écouter. Et pour sa plus grande joie, il entendit un faible gazouillis. Il grimpa alors quelques marches et tomba sur un filet d'eau sombre qui, sortant du flanc de la colline, remplissait une petite mare sur le roc nu et s'écoulait de nouveau avant de disparaître sous les pierres arides. Sam goûta l'eau, qui lui parut assez bonne. Il but alors abondamment, remplit sa bouteille et se tourna pour redescendre. Au même moment, il entrevit quelque chose, une forme ou une ombre noire se glissant parmi les rochers près de la cachette de Frodo. Ravalant un cri, il se jeta à bas des rochers et courut, bondissant de pierre en pierre. C'était une créature méfiante, difficile à voir, mais Sam n'entretenait guère de doute. Il brûlait de lui mettre la main au cou. Mais l'entendant approcher, elle s'esquiva rapidement. Sam crut l'apercevoir une dernière fois, jetant un rapide coup d'œil par-dessus le bord du précipice à l'est, mais elle se baissa aussitôt et disparut.
« Eh bien, la chance m'a pas abandonné !» murmura Sam. « Mais il s'en est fallu de peu. Ça suffit pas d'avoir des milliers d'orques sur les bras, il faut que cet affreux vilain vienne fourrer son nez dans nos affaires. J'aurais bien voulu qu'il l'abatte. »
Il s'assit auprès de Frodo, sans le réveiller. Mais il n'osa pas dormir lui-même. Enfin, quand il sentit que ses paupières se fermaient de sommeil et qu'il ne pourrait bientôt plus lutter, il réveilla doucement Frodo.
« J'ai bien peur que ce Gollum soit de nouveau dans les parages, monsieur Frodo, » dit-il. « En tout cas, si c'était pas lui, c'est qu'il a un double. Je suis parti chercher de l'eau, et juste comme j'allais revenir, je l'ai surpris à fouiner. J'ai comme l'impression qu'il serait dangereux de dormir tous les deux en même temps, et vous m'excuserez, mais j'arrive plus à garder les yeux ouverts. »
« Très cher Sam, » s'écria Frodo, « allonge-toi et prends le tour qui te revient. Mais je préfère Gollum aux orques. Lui, en tout cas, ne risque pas de nous livrer à eux, à moins d'être pris lui-même. »
Mais il pourrait faire un petit bout de chapardage et d'assassinat pour son propre compte,
grogna Sam.
Gardez l'œil ouvert, monsieur Frodo. Tenez, une gourde pleine d'eau. Buvez tout, on pourra la remplir en partant.
Là-dessus, Sam plongea dans le sommeil. La lumière baissait de nouveau quand il se réveilla. Frodo était assis contre le roc, mais il s'était assoupi. La gourde était vide. Il n'y avait aucun signe de Gollum. La nuit du Mordor était revenue. et les feux de garde brûlaient d'une sanglante lueur sur les hauteurs quand les hobbits décidèrent d'entreprendre l'étape la plus dangereuse de tout leur voyage. Ils montèrent d'abord à la petite source, puis, grimpant avec précaution, ils gagnèrent la route au point où elle bifurquait vers l'est pour rejoindre la gueule de fer à 20 000 de là. La voie n'était pas large, sans mur ni parapet sur le côté, et à mesure qu'elle s'aventurait sur l'éperon, le précipice qu'il abordait devenait de plus en plus profond. Les hobbits n'entendirent pas le moindre mouvement, et après avoir écouté un moment, ils partirent vers l'est d'un pas soutenu. Au bout d'une douzaine de milles, ils s'arrêtèrent. Quelque temps auparavant, la route avait tourné un peu au nord, et la portion qu'ils venaient de franchir était à présent cachée à la vue. Les conséquences furent désastreuses. Ils se reposèrent quelques minutes et se remirent en route. Mais ils ne marchaient pas depuis bien longtemps quand soudain, dans le calme de la nuit, ils entendirent le son qu'ils redoutaient secrètement depuis le début. Un grand piétinement sur la route. Il était encore à quelque distance derrière eux. Mais en se retournant, ils virent un clignotement de torches passer le tournant à moins d'un mille. Elle venait très vite, trop vite pour que Frodo songe à fuir le long de la route.
« J'en étais sûr, Sam, » dit Frodo. « Nous nous sommes fiés à la chance et elle nous a fait défaut. Nous voilà pris au piège. »
Il leva un regard éperdu vers la face renfrognée du mur. Taillé à pic par les constructeurs de la route au temps jadis, il s'élevait de plusieurs toises au-dessus de leur tête. Il courut de l'autre côté de la route et regarda par-dessus le bord dans un gouffre de ténèbres.
« Nous sommes finalement pris au piège, »
dit-il. Il se laissa choir au pied du mur de roche et baissa la tête.
« Il semblerait, » répondit Sam. « Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à attendre. »
Sur ce, il s'assit à côté de Frodo dans l'ombre de l'escarpement. L'attente ne dura pas longtemps. Les orques avançaient d'un bon pas. Ceux des premiers rangs portaient des torches. Elles approchaient. Flammes rouges dans l'obscurité, toujours grandissantes. Bientôt, Sam aussi baissa la tête, espérant cacher son visage quand les torches seraient à leur hauteur, et il plaça les boucliers devant leurs genoux pour mieux dissimuler leurs pieds.
S'ils sont assez pressés, ils peuvent bien laisser un couple de soldats fatigués se reposer et passer leur chemin,
pensa-t-il. Et on eût dit qu'ils le feraient. En tête de file, les orques vinrent d'un pas mou et bondissant, le souffle court, la tête baissée. Ils étaient de l'espèce plus chétive, conduits malgré eux à la guerre de leur sombre seigneur. Leur seul souci était d'en finir avec la marche et d'échapper au fouet. Sur le côté, deux des grands et féroces Uruks allaient et venaient le long de la file, faisant claquer leurs lanières et vociférant. Les rangs défilaient. Et la lumière révélatrice des torches était déjà bien en avant. Sam retint son souffle. Plus de la moitié de la file était maintenant passée. Puis soudain, l'un des meneurs d'esclaves repéra les deux formes sur le bord de la route. Il fit claquer son fouet en leur direction et hurla
« Et vous, debout !»
Ils ne répondirent pas. Et sur son cri, toute la compagnie s'arrêta.
« Allons, misérable limace »
pesta-t-il.
« C'est pas le moment de flémarder !»
Il fit un pas vers eux, et malgré les ténèbres, il reconnut l'emblème sur leur bouclier.
« Vous désertez, hein »
gronda-t-il.
« Où vous y pensez ? Tous vos copains devaient être à l'intérieur de l'Oudoun avant-hier au soir, vous savez ça ? Debout et à vos rangs, sinon je prends vos numéros et je vous signale !»
Ils se levèrent avec peine. Gardant le dos penché, clopinant comme des soldats fourbus, ils se traînèrent jusqu'à l'arrière de la file.
« Non, pas en queue. Trois rangs, en avant. Et restez-y, ou vous aurez de mes nouvelles quand je remonterai la file. »
Il fit claquer son long fouet au-dessus de leur tête. Puis, d'un autre claquement, suivi d'un cri, il remit la compagnie au trot. Ce fut bien difficile pour le pauvre Sam, tout fatigué qu'il était. Mais pour Frodo, ce fut un supplice et bientôt un cauchemar. Il serra les dents, s'efforçant de ne penser à rien et de tenir bon. La puanteur des orques en sueur tout autour de lui était suffocante, et il se mit à tirer la langue. Leur course ne se relâchait pas, et il appliqua toute sa volonté à prendre son souffle et à mouvoir ses jambes. Mais tout du long,
Il n'osait imaginer quelle fin atroce il trouverait au bout de son labeur et de ses souffrances. Il n'y avait aucun espoir de sortir des rangs sans être vu. De temps à autre, le meneur d'orque revenait pour les narguer.
« Là, c'est bon !»
ricanait-il, leur cinglant tout juste les jambes.
« Quand on veut, clac ! On peut, Mélimas, au pas ! Je vous servirai bien un petit rappel, seulement ils vont vous mettre à vif quand vous serez en retard à vos quartiers, ça vous apprendra ! Vous savez pas qu'on est en guerre !»
Ils avaient parcouru quelques milles, et la route descendait enfin par une longue pente dans la plaine, quand Frodo sentit ses forces s'épuiser et sa volonté faiblir. Il vacillait et titubait. Sam tentait désespérément de l'aider et de le soutenir, mais lui-même sentait qu'il aurait peine à tenir l'allure beaucoup plus longtemps. Il savait que la fin arriverait d'un instant à l'autre. Son maître tomberait ou s'évanouirait, tout serait découvert, et leurs efforts acharnés n'auraient servi à rien.
« Je vais tout de même payer ce diable de gros meneur d'esclaves !» pensa-t-il.
Mais au moment où il portait la main à son épée, vint un secours inattendu. Ils étaient maintenant dans la plaine et ils approchaient de l'entrée de Ludun. Non loin en avant, devant la porte à l'extrémité du pont, la route de l'ouest convergeait avec d'autres venant du sud et de Barad-dûr. Des troupes faisaient mouvement sur toutes les routes, car les capitaines de l'ouest avançaient et le seigneur sombre hâtait ses armées vers le nord. Le hasard voulut que plusieurs compagnies se rejoignissent dans les ténèbres du carrefour, en dehors de la lueur des feux de garde sur le mur. On ne tarda pas à se bousculer et à s'invectiver, chacune des troupes voulant arriver la première et en finir avec la marche. Les meneurs eurent beau hurler et donner du fouet, la bagarre éclata par endroits et des lames furent tirées. Une troupe d'Uruk, de Barad-dûr, lourdement armée, chargea la colonne de Durtang, semant la confusion parmi les rangs. Tout étourdi qu'il était de douleur comme de lassitude, Sam se secoua, saisit rapidement sa chance et se jeta sur le sol, entraînant Frodo avec lui. Des orques trébuchèrent sur eux, grognant et jurant. Alors les hobbits, rampant à quatre pattes, se glissèrent lentement hors de la cohue, jusqu'au côté de la route où enfin, sans être remarqués, ils se laissèrent tomber. Celle-ci avait un haut rebord pour servir de repère aux meneurs de troupes par nuit noire ou par temps de brouillard, et elle était surélevée de quelques pieds par rapport à la plaine. Ils restèrent immobiles pendant un certain temps. Il faisait trop sombre pour chercher un abri, à supposer qu'il n'y en eût aucun, mais Sam sentait qu'il devait au moins s'éloigner des grandes routes et de la lumière des torches.
« Allons, monsieur Frodo !» murmura-t-il. « Encore un petit bout et vous pourrez vous étendre !»
Dans un dernier effort de désespoir, Frodo se souleva sur ses mains et rampa encore une soixantaine de pieds. Alors, il tomba dans une fosse peu profonde qui s'ouvrit subitement devant eux, et il y demeura comme un corps mort.